131, trois premières strophes.
Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 1. Et il arriva que lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité, et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit : Que font ces faibles Juifs ? Les laissera-t-on faire ? Offriront-ils des sacrifices? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées? Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit : Au reste, pour ceux que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retomber leur outrage sur leur propre tête, et livre-les au mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. Mais nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Mais il arriva que lorsque Sanballat et Tobija et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à se fermer, ils se mirent dans une grande colère et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Et nous priâmes notre Dieu. Et nous établîmes une garde contre eux, jour et nuit, à cause d'eux. Et Judas dit : Les forces des porteurs de fardeaux faiblissent, et il y a beaucoup de décombres. Nous ne pouvons bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient : Ils ne le sauront pas et ne le verront pas, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, et nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Et il arriva que comme les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent et nous le dirent par 10 fois de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous. J'établis des postes dans les endroits bas, dans l'espace derrière la muraille, en des lieux découverts. Et je plaçai le peuple par famille avec leurs épées, leurs piques et leurs arcs. Et je regardai et je me levai et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et quand nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait dissipé leurs conseils, il arriva que nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. Et dès ce jour-là, la moitié de mes jeunes hommes travaillaient à l'œuvre, et la moitié tenait les piques et les boucliers, les arcs et les cuirasses. Et les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient les fardeaux, et ceux qui les chargeaient, faisaient le travail d'une main, et de l'autre main tenaient une arme. Et ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée sainte sur leur rein, et bâtissait. Et celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi. Et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là, rassemblez-vous vers nous. Notre Dieu combattra pour nous. Ainsi nous faisions l'ouvrage, et la moitié d'entre eux tenait les piques depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps-là aussi, je dis au peuple que chacun, avec son serviteur, passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit une garde et que de jour il fasse le travail. Et ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes hommes, ni les hommes de la garde qui me suivaient, nous notâmes nos vêtements, chacun avait son arme à sa droite.
En introduction à l'étude du chapitre 4 de Néhémie, nous désirons faire quelques rappels des 3 premiers chapitres. Le livre de Néhémie nous présente le récit du 4e et dernier réveil qui concerne le résidu du peuple d'Israël. Et il nous donne donc un aperçu de son état. Il s'agit d'un réveil dans un temps de déclin et de ruine. Et donc, c'est un sujet qui devrait être sensible à nos cœurs, parce que nous sommes sans doute dans un temps de déclin et de ruine. Et nous voyons que dans ce temps, eh bien, Dieu fait son œuvre, parce qu'un réveil, c'est une œuvre de Dieu. Et c'est un grand sujet de consolation, de savoir que dans un temps de ruine, eh bien, Dieu peut agir et agit en nous réveillant. Et il faut insister sur le fait que, alors que nous est présenté dans ces premiers chapitres les travaux de différentes personnes, eh bien, il faut souligner que derrière ces personnes, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est seul capable de produire un réveil. Et Dieu se plaît à utiliser des instruments. Des instruments qu'il prépare et qu'il forme dans le secret. Et l'étude des serviteurs dans un temps de réveil est un sujet très instructif et a beaucoup d'intérêt en ce qui nous concerne. Nous voyons en particulier dans Néhémie un homme de Dieu. Un homme de Dieu dans un temps de ruines. Nous voyons dans les descriptions des premiers chapitres quelle est l'attitude quel est le comportement, quels sont les caractères d'un homme de Dieu. Et en Néhémie, nous avons des détails particuliers sur ce que nous devrions sans doute réaliser les uns et les autres. Le premier point en ce qui concerne Néhémie, c'était un homme pieux et il avait un attachement personnel à son Dieu. C'était son premier caractère. Le deuxième caractère de Néhémie, c'est qu'il avait une affection particulière pour le peuple de Dieu. C'est un deuxième caractère très précieux d'avoir ces affections pour tout le peuple de Dieu, même s'il est dispersé. Ensuite, le troisième caractère que nous pouvons trouver en Néhémie, c'est que il avait un amour profond pour le lieu où l'Éternel avait dit qu'il ferait habiter son nom, Jérusalem. Jérusalem, c'était le lieu où l'Éternel avait promis d'être présent. Quels exemples pour nous, notre attachement personnel à notre Dieu et à notre Seigneur, une affection particulière pour tout le peuple de Dieu, un amour profond en ce qui nous concerne, c'est bien sûr ce n'est pas Jérusalem, mais l'Assemblée de Dieu. Quel prix a pour nos cœurs l'Assemblée de Dieu, où Dieu est présent, c'est son habitation, c'est sa maison. Le quatrième caractère de Néhémie, c'était un homme qui se tournait habituellement et continuellement vers son Dieu. C'était un homme de prière. Dans Néhémie, je crois qu'il est cité 10 fois où nous le voyons en prière. Un autre point, c'est qu'il fondait toutes ses requêtes, en particulier dans le chapitre, sur les promesses divines qui étaient contenues dans la loi de Moïse. Et il demandait à Dieu de s'en souvenir. Dans le premier chapitre, quand il apprend, en interrogeant son frère en particulier, qui revenait de Jérusalem, ce qu'il en était quand il apprend la grande misère et l'opprobre qu'il y avait à Jérusalem, les murailles étaient en feu, que fait-il? Eh bien, nous voyons encore cet exemple d'un homme pieux. Il se met à l'écart, il se met seul dans la présence de Dieu. Il s'agenouille, il prie, il s'humilie, il reconnaît son propre péché, il s'associe au péché de son peuple. Quel exemple pour nous! Qu'en est-il de nos cœurs, de nos sentiments quand nous apprenons que l'Assemblée de Dieu est aujourd'hui devenue une grande maison? Avons-nous ce désir de prier, de supplier notre Dieu? Après cette prière qui est contenue dans le premier chapitre, nous voyons qu'il y a un temps d'attente. Il se passe, je crois, 4 mois avant que Dieu réponde à sa prière et à ses supplications. Et nous voyons en cela aussi un autre caractère d'un homme de Dieu, c'est la patience. La patience parce que Dieu écoute et Dieu répond. Mais il répond quand il semble que le temps est venu pour obtenir cette réponse. Quel exemple en Néhémie d'un homme de Dieu qui se tient devant Dieu en un temps de déclin et en un temps de ruine. Dans le chapitre 2, nous voyons en particulier ce que Dieu a mis au cœur de Néhémie, ce qui est au verset 12 en particulier du chapitre 2, nous voyons au milieu ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Voilà le travail de Dieu dans le secret. Un serviteur qui se tient à l'écart dans la présence de Dieu, qui présente sa supplication, et nous voyons en particulier ce que Dieu, dans le secret, va dire à son serviteur. Dieu m'a mis au cœur ce que Dieu m'a mis au cœur de faire pour Jérusalem. Un autre caractère d'un homme de Dieu, c'est sa dépendance. C'est non seulement la patience d'attendre les réponses de Dieu aux prières, aux supplications, attendre le temps de Dieu qui n'est pas forcément notre temps. Et nous voyons que dans ces moments particuliers, dans la présence divine, eh bien Dieu donne à son serviteur ce qu'il doit faire. Quel exemple de dépendance dans un temps de déclin et dans un temps de ruine, cette dépendance d'un homme de Dieu. Pour en revenir maintenant au chapitre 3 que nous avons étudié la dernière fois, il y a un an, grâce à Dieu. Donc le chapitre 3 nous présente la reconstruction de la muraille. Nous savons que c'est un travail qui a été effectué en 52 jours et c'est un travail qui s'est effectué dans les mois d'été, pendant 50 jours, c'est-à-dire les moments où la chaleur dans ce pays est torride. Et nous avons lu au chapitre 4, le dernier verset, que ceux qui travaillaient, ils n'avaient même pas changé de vêtements. Quelle énergie pour ce travail de reconstruction. Et dans ce chapitre 3, nous avons donc l'énumération de 41 groupes ou de personnes qui réparent, qui bâtissent les murailles, qui bâtissent les portes de Jérusalem. Nous ne lisons rien des préparatifs et de l'organisation. C'est toujours le travail de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est de l'homme, ici, est mis de côté. C'est Dieu qui agit, c'est un temps de réveil, c'est l'œuvre de Dieu. Selon l'expression du prophète Habacuc, c'est Dieu qui fait revivre son œuvre. Et c'est Dieu qui agit. Il utilise des instruments appropriés qu'il a préparés, qu'il a formés, mais c'est Dieu qui agit. Et donc, nous voyons dans ce chapitre 3 la diversité des instruments que Dieu va utilise. Et chacun est distingué par une appréciation, une approbation. Quelquefois, ce n'est pas une approbation. Tout est noté. Et c'est ce qu'il y a de remarquable, c'est que Dieu note tout avec minutie. Le travail que nous faisons pour lui est noté. Le travail que nous ne faisons pas pour lui est noté. Si nous sommes des négligents, Dieu le note. Si nous avons de l'ardeur et du zèle pour Dieu, Dieu le note. C'est-à-dire que Dieu note tout. Et ici, nous voyons qu'il y avait des appréciations pour chacun. Il y avait ceux qui bâtissaient, il y avait ceux qui portaient les fardeaux, il y avait ceux qui chargeaient. Et avec quelle minutie, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, avec quelle minutie Dieu note tous nos faits et gestes, ce que nous faisons pour lui. Est-ce que nous avons des cœurs engagés pour lui? Dieu note les négligents, il note ceux qui travaillent plus que les autres, qui ont plus d'énergie. Il note les tièdes, il note ceux qui n'ont pas envie de travailler. Il nous est parlé des técoïtes qui ne plièrent pas leur cou au service de leur Seigneur. Qu'en est-il de chacun de nous? Est-ce que nous plions le cou au service de notre Seigneur? Sommes-nous des négligents? Sommes-nous distraits par le monde? Dans ce chapitre 3, enfin, nous pouvons noter que l'importance de réparer devant sa propre maison. Il y avait cette muraille qui devait être reconstruite, rebâtie en face de nos propres maisons, de chacune des propres maisons. Et il est noté en particulier que Eliashib, qui est nommé dès le début du chapitre 3, eh bien, il était négligent, il avait manqué à ses devoirs vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de tout le peuple. Encore, il est noté le zèle des jeunes femmes. Il y avait des hommes, il y avait aussi des jeunes femmes. Mais les jeunes femmes, il est noté que, eh bien, également, elles travaillaient, mais c'était sous l'autorité du Père. Et je crois que c'est un point qui mérite d'être souligné, que les jeunes femmes devaient travailler sous l'autorité du Père.
Peut-être ajouter une toute petite chose, c'est que nous avons souvent tendance à être très chronologique, c'est-à-dire il y a le chapitre 3, après il y a le chapitre 4. Mais il faut bien se dire que le chapitre 4 se passe tout à fait en même temps que le chapitre 3. C'est-à-dire que ce que nous avons vu l'an dernier, la réfection de la muraille, les portes, eh bien ça se passe en même temps que le chapitre 4. Ils n'ont pas eu un moment de répit et puis ensuite l'ennemi a travaillé. L'ennemi travaille au moment où ils bâtissent la porte des poissons, la porte des brebis, etc. On trouve souvent cela. Donner un deuxième exemple que nous trouvons dans l'histoire d'Ézéchias. L'histoire d'Ézéchias, on connaît bien l'histoire de Sanchérib qui vient. Si vous prenez le chapitre 38 d'Ésaïe, il est dit « en ces jours-là ». Donc, pendant que vous avez l'attaque extérieure de Sanchérib, dans ce même temps, vous avez la maladie d'Ézéchias. Souvent, on croit que c'est après. Non, c'est pas après, c'est en même temps. C'est-à-dire que quand il a eu affaire à l'ennemi de l'extérieur, il avait lui-même dans son cœur, dans son corps un problème. Et ça me paraît important de le préciser, qu'ici, ça se passe en même temps. Il y a un principe que nous trouvons dans toute l'Écriture, c'est que quand Dieu travaille, et nous l'avons entendu dans le résumé, dans l'introduction plutôt, un réveil est une œuvre de Dieu. Eh bien, quand Dieu travaille, et ça vous trouvez ça toujours, Satan travaille aussi. Trouvez ça dès le chapitre 3 de la Genèse. Après que Dieu ait fait cette œuvre de la création, immédiatement, quand Dieu travaille, Satan immédiatement va travailler et va toujours contrecarrer ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, dans notre 21e siècle éclairé, Satan ne fait pas autre chose que ce que Dieu établit, mais Satan fait toujours quelque chose de contraire à ce que Dieu fait. Et nous l'avons dans ce chapitre, où il va s'attaquer directement à l'œuvre de Dieu. Pas besoin de prendre beaucoup d'exemples dans le 21e siècle, simplement dans notre pauvre pays qui, comme on le disait hier soir, est comme notre monde est chancelle comme un homme ivre. Eh bien, si vous regardez comment Satan agit aujourd'hui, il est en train de contrecarrer tout ce que Dieu a établi. Les fondements de la famille en particulier, la vie qui est de Dieu, des choses comme ça, Satan s'attaque directement à Dieu. C'est une attaque contre Dieu. Et nous avons, comme ça nous est dit dans la première aux Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins.
Simplement, tant que nous sommes, on peut dire, dans l'introduction ou la vision plus générale, si nous prenons encore un peu de recul, nous savons que le chapitre 4 fait partie d'un ensemble de trois chapitres aussi, 4, 5 et 6, qui nous parle de l'opposition et des combats. Mais après, nous arrivons au chapitre 7 et au chapitre 8. Et ce qu'il est certainement nécessaire de souligner, c'est que Dieu a un plan. Et son plan, c'est de bénir, c'est d'amener le peuple à jouir du repos, comme nous le trouvons dans le chapitre 8, quand ils arrivent à la fête des tabernacles. Et un moment plus grand sans doute que tout ce que le peuple a pu connaître dans le passé, puisqu'on remonte en comparaison au jour de Josué. Alors autant nous avons besoin d'être occupés, comme dans le chapitre 3, de l'œuvre de Dieu, autant nous avons à prêter l'attention à tout ce qui nous est donné pour résister à l'ennemi et ne pas se décourager, autant bien des choses peuvent paraître peut-être un peu négatives dans ce qui est devant nous, mais il faut se rappeler que Dieu a son plan et que son plan, c'est de nous bénir. Et que ce qui nous est enseigné dans ces chapitres, c'est le chemin, pour ainsi dire. Ce sont les circonstances, les voies dans lesquelles nous sommes appelés à passer. Mais il y a un but, un plan de Dieu. Et Néhémie ne connaissait pas ce plan. Mais il savait quel était le travail que Dieu lui avait confié. Et à chaque fois que nous voyons qu'il y a une opposition, eh bien, nous voyons que Néhémie regarde à son Dieu, montrant pour ainsi dire que si nous ne pouvons pas connaître d'avance ce par quoi nous avons à passer, mais ce qui est constamment notre ressource, c'est de regarder à celui qui sait. Et notre privilège est beaucoup plus grand que celui de Néhémie parce que nous savons quel est le repos vers lequel nous allons. Nous savons quel est le but vers lequel nous allons. Parce que Dieu nous a fait connaître ses pensées profondes, nous les a révélées.
Peut-être aussi dans les réflexions un peu générales, il est frappant de voir que ce livre de Néhémie, contrairement au réveil au temps de Zorobabel notamment, se passe à un moment où, si on peut dire, les prophètes se sont tus. Il restera Malachie plus tard, mais le ministère prophétique d'Agé et de Zacharie remonte déjà dans le passé. Donc Néhémie travaille, si on peut dire, à un moment où les prophètes ne sont plus là pour soutenir, réveiller le peuple. Et pourtant, il ne va pas se lasser. Nous pouvons toujours avoir, les uns ou les autres, en certains moments, le regret de ne plus être dans des périodes où l'esprit agissait avec puissance par des serviteurs particulièrement engagés, particulièrement dévoués pour le Seigneur, particulièrement qui connaissait particulièrement sa pensée et qui avait cette capacité de stimuler. Mais Néhémie n'est pas découragé par cela. Et il y a deux choses qui stimulent Néhémie et qui peuvent aujourd'hui nous encourager, nous fortifier et nous stimuler dans le travail, dans l'œuvre. La première chose, c'est son attachement profond à Jérusalem. Et nous l'avons vu, enfin cela a été rappelé, dans les premiers chapitres, combien Jérusalem était, combien le cœur de Néhémie s'attachait à Jérusalem. La deuxième chose, et nous le voyons en particulier dans ces passages, c'est l'énergie de la foi chez Néhémie. Son énergie pour faire face en se confiant en Dieu, et cette confiance, elle est exprimée dans la prière, et Néhémie est un homme de prière. Alors aujourd'hui aussi pour nous, pourrions peut-être regretter de ne plus être dans un temps où des ministères, des services, des dons puissants sont exercés pour réveiller, pour stimuler, pour fortifier les uns et les autres. Mais nous avons ces mêmes ressources, plus exactement ces mêmes pensées pour nous stimuler, pour nous fortifier. L'amour pour l'assemblée, cette assemblée qui est si précieuse au cœur du Seigneur Jésus. Parce que si Néhémie aimait Jérusalem, Jérusalem, c'est la ville sur laquelle le Seigneur a son regard continuellement. Sion, qu'il a aimé. Et puis, il y a quand même toujours pour nous la foi qui trouve sa ressource dans la prière. Et puis, notre frère vient de nous parler de l'espérance. Effectivement, Néhémie n'avait pas, dans un sens, cette espérance telle que nous l'avons. Mais pour nous, nous avons ainsi l'amour, la foi et l'espérance pour nous stimuler, même dans un temps de grande faiblesse.
On a bien rappelé que quand Dieu agisse par son peuple, c'est l'ennemi qui attaque. Et dans les trois chapitres 4 à 6, on voit trois attaques différentes. Premièrement, dans le chapitre 4 qui est devant nous, c'est l'attaque contre la construction et la continuation de construire cette muraille. Deuxièmement, dans le chapitre 5, c'est l'attaque intérieure par des querelles entre les uns et les autres. Et la troisième attaque, c'est dans le chapitre 6, c'est contre ses instruments, savoir Néhémie dans ce cas-là, que Dieu utilise pour rester fidèle, pour continuer avec le plan de Dieu. Et ce sont des attaques jusqu'à aujourd'hui. Il essaie de faire faible, il essaie de faire arrêter le peuple à rétablir, à construire, à finir avec la muraille. Et c'est une attaque contre tout le peuple. Il essaie par les conflits intérieurs de mettre les vues, les perspectives, pas sur l'œuvre, pas sur Christ, pas sur l'Assemblée, mais sur toute autre chose, et d'augmenter la faiblesse. Et il essaie aussi d'attaquer ce que Dieu veut utiliser pour le bien, pour l'encouragement, pour l'avertissement, etc. du peuple. Dans le chapitre 4, j'ai eu le temps de ce matin de compter, on trouve 10 fois, encore une fois, le mot mur ou muraille. Ça montre que ce chapitre parle de notre responsabilité de rester, de continuer avec cette muraille. L'année dernière, Eric a souligné au moins trois pensées sur la muraille. Premièrement, la séparation de tout mal pour Dieu. Deuxièmement, la protection du peuple par sa muraille. Troisièmement, l'unité qui est faite par cette muraille pour le peuple de Dieu. Et ces trois choses, l'ennemi ne veut pas. Et ici, nous trouvons notre responsabilité de rester avec cela, de continuer. Parce qu'il faut confesser que la muraille n'est pas complète pratiquement aujourd'hui. Il y a des trous, il y a encore des choses à rétablir encore. Et ce chapitre nous aide à continuer, à prendre courage, de ne pas se laisser décourager par l'ennemi, mais de continuer, même si les ennemis comme Sanballat et comme Tobia sont des ennemis très très forts. Ça reste aujourd'hui la même chose, mais Dieu aussi, et Dieu est plus fort.
Comme il a été dit par Benjamin, que on est toujours en parallèle avec le travail que Dieu il fait dans son œuvre, il y a les attaques de l'ennemi. Nous les voyons déjà dans le début de ce livre, qu'il y a déjà cet ennemi qui arrive à, qui veut attaquer. Nous voyons comme il est dit que dans le chapitre 2, il est dit que quand il cherche, que Sanballat, il était contre, le chapitre 2, verset 10, et quand Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'apprirent, ils furent très mécontents que de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Alors, déjà, ils attaquent, tout de suite, s'il y a quelqu'un qui cherche le bien d'Israël, il veut déjà attaquer ça. Et quand celui-là, il arrive à Jérusalem encore, nous voyons à la fin du chapitre 2, verset 19, « Et quand Sanballat, l'Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'Arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent, « Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez vous révolter contre le roi ?» Parce que maintenant que Néhémie était arrivé à Jérusalem et qu'il a encourager les autres, les anciens là-bas, les nobles, dans le verset 16, nous voyons, ils ont dit, dans le verset 18, et ils dirent, levons-nous et bâtissons, ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Là-bas aussi, Sanballat et Tobija, ils attaquent vraiment contre eux parce que maintenant, il n'y avait plus seulement un homme qui cherchait le bien d'Israël, il y avait plusieurs qui étaient encouragés par cela pour travailler dans cette œuvre. Et là, ils attaquent encore plus. Ils étaient déjà plusieurs. Il y avait encore l'Arabe encore avec. Mais maintenant, ils ont vraiment commencé, ils ont vraiment travaillé. Alors, là encore, on voit qu'ils deviennent vraiment mécontents. Nous voyons maintenant dans le chapitre 4, comme vous voyez, le chapitre 3 était entouré de ces attaques à la fin du chapitre 2, qu'on voit, ils se moquèrent, ils le méprisèrent. Là, c'était encore la moquerie, le mépris qui était fait contre eux. Mais maintenant,
Une fois que le travail se fait, nous voyons encore ces attaques encore plus fortes. Nous voyons maintenant dans le chapitre 4, à partir du verset 1, ils arrivent, et vrai que lorsque Sanballat apprit que nous bâtissons la maison muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité. Il se moqua des Juifs. Voilà. Encore cette colère, elle devient encore plus forte. Nous voyons, quand nous avançons, quand nous travaillons vraiment dans le travail pour le Seigneur, nous voyons ici, Jérusalem, c'est pourquoi ils travaillaient là-bas. Parce qu'il y avait, dans Jérusalem, il y avait le temple, il y avait l'autel. Et là, il fallait que le temple, là où Dieu avait promis sa présence, l'autel, là où on faisait l'adoration pour Dieu, là, il fallait protéger ce lieu. Il fallait que le peuple soit autour de Dieu, soit vive, habite là où Dieu y habite. C'est pourquoi il fallait que ce peuple soit dans cette ville de Jérusalem où Dieu il avait choisi son nom. Et maintenant que le peuple il voulait vraiment y habiter, y séjourner et en protection de l'ennemi, là, ils attaquent davantage. Et nous voyons que maintenant, il se met en colère et il fut extrêmement irrité. On voit que ces attaques deviennent de plus en plus fortes. Et c'est encore un bon signe, soi-disant, parce que si nous travaillons pour Dieu et les attaques sont aussi là, nous voyons que Dieu veut nous donner de la force, mais si nous nous tournons vraiment vers Dieu. Alors, on voit que ces attaques de l'ennemi, quand ils deviennent plus forts, qu'est-ce que c'est la réponse de Néhémie? Il dit, voilà, dans le verset 4, « Écoute, ô notre Dieu ». Il se met d'abord à la prière. Et nous avons déjà dit que Néhémie, c'est un homme de prière. La réponse, c'est vraiment de nous mettre à genoux quand nous voyons que l'ennemi attaque, que l'ennemi attaque cette unité, que l'ennemi attaque que nous voulons être protégés de ces attaques. C'est la première chose à faire, c'est de nous mettre à genoux, de prier, de dire « Écoute, ô Dieu, et vois cette situation. »
On a souligné plusieurs fois le fait que Satan s'oppose systématiquement à l'œuvre de Dieu. Et quelqu'un a dit que dans cette guerre de Satan contre Dieu, le champ de bataille, c'est les hommes, et le cœur des hommes et l'esprit des hommes, et en particulier le cœur du peuple de Dieu et l'esprit du peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si ce champ de bataille de Satan contre Dieu, c'est nous. C'est en nous, au milieu de nous, que Satan fait la guerre à Dieu. Et on a souligné là, dans le début du chapitre 4, cette nouvelle opposition après celle du chapitre 2. Et on a souligné la colère et l'irritation extrême de Sanballat. Et on voit que cette colère et cette irritation, elle se manifeste sous la forme de moquerie. Et déjà, ça nous montre que la façon de faire de l'adversaire, il est rempli de colère par rapport à ce qu'il se passe, peut-être de bon au milieu du peuple de Dieu. Mais d'abord, ce n'est pas la colère qui va se manifester d'une façon agressive, violente, mais il va y avoir d'abord cette moquerie. Et associé avec la moquerie, on voit au verset 3, chez Tobija, le mépris. Donc, Sanballat se moque des Juifs et Tobija les méprise. Et ça, ce sont des coups qui peuvent faire très mal et qui sont difficiles à résister. La moquerie d'une part et le mépris de l'autre. Nous n'aimons pas qu'on se moque de nous, de notre foi, de notre fidélité au Seigneur, et nous n'aimons pas le mépris, être méprisé. Et là, ce sont les armes qu'utilise l'ennemi. Et en rapport avec la moquerie, on voit quelques questions qui se pose entre Sanballat et ses frères et ses proches. Il dit, que font ces faibles juifs? Les laissera-t-on faire? Offriront-ils des sacrifices? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées? Il me semble que ces questions, elles ont aussi un intérêt. Et sans couvrir toutes ces questions, une ou deux remarques. On voit au milieu la question des sacrifices. Offriront-ils des sacrifices? L'ennemi, et Wilfried en a parlé, l'ennemi ne veut pas qu'il y ait d'adoration, ne veut pas qu'il y ait de sacrifices. Donc on voit que cette idée que des sacrifices pourraient être offerts, c'est quelque chose qui déplaît et dont il se moque. Et il y a aussi la première question, que font ces faibles juifs? Là, ça c'est la moquerie vis-à-vis de notre faiblesse. Et nous sommes faibles. Et c'est vrai, nous sommes faibles. Et on peut dire qu'il nous faut être conscients que nous sommes faibles, mais que cette faiblesse, il ne faut pas se méprendre au sujet de notre faiblesse. Et parce que, d'un côté, c'est toujours la pensée de Dieu d'agir de façon liée à notre faiblesse. Je cite un ou deux versets dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 1, verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Donc, ne complexons pas par rapport à notre faiblesse. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Et on voit chez l'apôtre Paul, par exemple, 2 Corinthiens 12, je le mentionne juste, Paul était faible aussi. Et le Seigneur avait permis que Paul soit faible et qu'il ressente sa faiblesse pour qu'il puisse se dire « Quand je suis faible, alors je suis fort. » 2 Corinthiens 12, verset 10. Et je mentionne Apocalypse 3, l'exemple de l'assemblée fidèle de Philadelphie. « Tu as peu de force. » Donc, du côté de l'ennemi, notre faiblesse, c'est un sujet de moquerie. Mais si nous regardons plutôt du côté de Dieu, notre faiblesse, elle n'est pas un problème. Elle est liée au fait que Dieu veut se glorifier à travers nous. Il a choisi des choses faibles du monde. Quand je suis faible, alors je suis fort. Et l'exemple de Philadelphie. Et encore sur la dernière question, feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées? Il me semble qu'il y a du côté des ennemis cette constatation, voilà, il y a des monceaux de pierre, voilà, il y a la ruine. Et pour l'ennemi, c'est une bonne chose qu'il y ait la ruine au milieu du peuple de Dieu. Mais il s'inquiète. Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière afin quand elles sont brûlées? Peut-être que c'est quelque chose qui dérange l'ennemi si, malgré la ruine, on peut retrouver des choses précieuses. Des choses précieuses qui, comme si elles avaient été couvertes, cachées par la ruine, quelqu'un va redécouvrir quelque chose que la ruine avait couvert et va en retrouver le caractère précieux. Eh bien ça, l'ennemi ne le veut pas, mais c'est quelque chose d'heureux que l'on peut, des choses heureuses que l'on peut retrouver malgré la ruine, comme ces pierres qui étaient brûlées, mais que l'ennemi craignait qu'elles revivent.
Et si je peux juste ajouter deux remarques en rapport avec la manière dont ces ennemis agissent. Ils font beaucoup d'agitation, ils font beaucoup de bruit. Et sans sous-estimer l'adversaire, nous devons apprendre à faire la distinction entre ce qui n'est que du bruit et ce qui est réellement, entre guillemets, un sujet de crainte. Et dans ce qui est dit là, je relève au verset 2, « Offriront-ils des sacrifices ?» Mais ça fait longtemps qu'ils offrent des sacrifices. Qu'est-ce qu'ont fait Zorobabel et Joshua ? Chapitre 3 d'Esdras. Première chose, ils ont construit l'autel sur son emplacement. Quand Esdras lui-même revient au chapitre 9, alors qu'il apprend ce qui se passe et qu'il mène deuil, il est dit « Et lors de l'offrande du soir, je me levais. » Les sacrifices, ils étaient déjà là. L'ennemi médit, parle et au fond est ignorant de bien des choses. Quand nous dépistons cette ignorance, cela nous rassure. Mais au fond, qu'avons-nous à craindre de ce bruit ? Si on tourne la page au chapitre 6, on aura la médisance vis-à-vis de Néhémie. Verset 6. On entend dire parmi les nations, et Gachmu le dit, que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. C'est pour cela que tu bâtis la miraille. Un peu plus loin, verset 7. Et même tu as établi des prophètes pour proclamer et dire de toi dans Jérusalem, il y a un roi en Juda. Médisance. Néhémie, aussi bien que les Juifs autour de lui, tous ces Israélites savaient que c'était faux. Donc c'est au fond des paroles qui font du bruit. Comme disait Eric, c'est des choses qui peuvent faire mal quand même, parce qu'à calomnie, la médisance, on n'est pas indifférent. Mais en même temps, quelque part, pour nous, nous avons des encouragements, et je voudrais juste lire ce verset des Romains qui nous est familier dans un sens, mais que nous avons besoin de nous rappeler, Romains 8, verset 31. « Que dirons-nous donc à ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il nous faut, nous ne devons pas être négligents ou sous-estimer les agitations, les bruits de l'ennemi. Benjamin a rappelé les choses dans ce monde aujourd'hui autour de nous. Il agit contre Dieu, mais quand il agit contre nous en tant que croyants, nous devons être attentifs pour distinguer ce qui n'est que du bruit, ce qui est du mensonge, et ce que Dieu peut utiliser pour sonder nos cœurs et nous parler, et ne pas nous laisser effrayer par des choses qui ne sont que du mensonge.
Franchement, est-ce que ça valait vraiment la peine de se mettre tellement en colère quand il dit « ce sont des faibles juifs » et puis « s'il y a un renard qui monte, il va faire tout écrouler ». Mais Satan ne supporte pas l'œuvre de Dieu. Et pour prendre les paroles d'un autre, offriront-ils des sacrifices ? Satan supporte très mal le rappel tous les dimanches de sa défaite. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous nous réunissons autour du Seigneur, le dimanche matin, nous annonçons la victoire de notre Seigneur Jésus et par conséquence, la défaite de Satan. Quelque chose qui est insupportable pour lui, n'est-ce pas ? Pour les jeunes et les moins jeunes, on est terriblement sensible à la moquerie. Et peut-être qu'une fois ou l'autre, c'est bien la peur de la moquerie qui a fait qu'on s'est tu, qu'on n'a rien dit. Dites franchement les enfants, cours de récréation, vous allez dire à un copain, hier j'étais à La Réunion, et puis vous êtes prêts à ça ? Vous préférez disparaître sous terre, n'est-ce pas ? Plutôt que de dire, où est ton cœur ? Que Christ est ton sauveur ? Si on se moque de toi ou de nous, finalement, on nous met en compagnie de qui ? Sinon de ceux qui se sont moqués, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. La moquerie était là présente lorsque notre Seigneur Jésus a été crucifié. Et quand on se moque de toi, parce que tu es chrétien, parce que tu n'étais pas au match de foot, mais que tu étais à La Réunion, eh bien, on te met en compagnie du Sauveur lorsqu'il était accusé et qu'on s'est moqué de lui. La moquerie est une arme terrible dans la main de l'ennemi. Il y a un exemple qui est très semblable à ce que nous avons là. Dans le deuxième livre de Samuel, quand David, c'est je crois chapitre 8, je ne suis pas tout à fait sûr, on peut peut-être chercher. Quand David s'est présenté, non, excusez-moi, c'est le chapitre 5. Quand David s'est présenté devant la forteresse des Jébusiens, qu'est-ce qu'on a dit du haut des murailles? Bon, les aveugles et les boiteux vont te jeter, t'empêcheront de rentrer. On n'a pas besoin de mettre des hommes valides, on va mettre. C'est comme quand on dit, vous savez, une grand-mère avec leur balai vont régler le problème. Hein. C'est une expression qu'on entend. Eh bien, c'est ça, tu ne rentreras pas. Et les aveugles et les boiteux, ça suffira pour te. Et nous avons aussi ce mot mais, qui est extrêmement, extrêmement beau lorsque nous lisons ce verset 7. Mais David prit la forteresse de Sion. Et qu'est-ce que nous avons ici? Verset 6. Mais nous rebâtîmes la muraille. Et ça, c'est très encourageant. L'ennemi, non seulement se moque, mais il y a un détail qu'on n'a pas souligné. Il est devant l'armée de Samarie. Il y a non seulement la colère, il y a la moquerie, mais il y a aussi un déploiement de ce qu'est la force de l'homme. D'ailleurs, ce détail, j'ouvre une petite parenthèse, certains commentateurs pensent que Sambalat était probablement un Samaritain, qu'il était de Bétoron, le royaume du Nord n'existait plus depuis 721, puisque Shalmaneser, Sargon, avait déporté la population et avait importé une autre population qui n'avait pas une goutte de sang d'Abraham dans les veines, et qui était là et qui s'oppose à cette construction. Mais David prit la forteresse de Sion. Mais nous rebâtîmes. Et que cela nous encourage, dans un temps de petites choses, eh bien, ni par force, ni par puissance, Zacharie 4, je crois, ni par l'armée de Samarie, mais par mon esprit. Que le Seigneur nous donne de nous tenir devant lui, que dans nos cœurs soient les chemins frayés de lui vers nous, les chemins frayés de nous vers notre entourage, pour que l'action de l'esprit, malgré l'opposition forcenée de l'ennemi, eh bien, nous puissions accomplir en effet le travail, selon ce qu'on a entendu, dans le plan que Dieu s'est proposé d'accomplir. Seigneur, désire qu'il y ait un témoignage jusqu'à sa venue sur cette terre. Que la présence du Seigneur au milieu de l'assemblée, dans chaque croyant, soit visible, soit son travail. Que nous puissions être en effet collaborateurs de Dieu.
Mais nous rebâtîmes la muraille. On a dit tout à l'heure qu'on trouvait 10 fois cette muraille. Et pour notre encouragement, je crois que, sauf erreur, nous trouvons 7 fois dans ce chapitre 4 le fait de bâtir ou rebâtir. Où est-ce qu'on trouve l'ennemi qui empêche de bâtir? Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre. Soyez sobre, veillez, c'est le chapitre 5 au verset 8. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable utilise des instruments, nous le voyons dans notre chapitre. Et dans cet épître de Pierre, eh bien, nous trouvons aussi cette fois le fait de faire du bien. On l'a vu tout à l'heure, les attaques de l'ennemi commencent par le chapitre 2 où il nous est dit que Néhémie, un homme fut venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Dès que quelqu'un cherche le bien, nous pouvons être sûrs que l'ennemi va être là. C'est la raison pour laquelle nous avons, et nous le verrons sans doute un peu plus loin, cette exhortation d'être sobre et de veiller. Et ce chapitre 4 en est un merveilleux exemple. Sans être trop long, on pourrait sans doute trouver des aspects de la muraille dans cet épître de Pierre. On a parlé de la faiblesse. Peut-être qu'il nous faut remettre cette question dont nous avons dit un mot dans l'introduction, lui et ses filles. Remettre cette pensée sur nos cœurs, parce que dans cet épître de Pierre, on trouve au chapitre 3 la pensée de Dieu à l'égard de la femme en particulier, de sa soumission, de sa parure, l'homme caché du cœur. Et à ce sujet, eh bien, il nous est dit, comme Sarah, donc c'est le chapitre 3 de 1 Pierre, « Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, de laquelle vous êtes devenus les enfants en faisant le bien et en ne craignant aucune frayeur. » Et puis un peu plus loin, nous trouvons que c'est un vase plus faible, « ne craignant aucune frayeur ». On a parlé de l'opprobre, de la honte. Est-ce que cet aspect pour nos sœurs aujourd'hui est encore sur nos cœurs, devant Dieu? Le désir de plaire à Dieu simplement, d'avoir affaire à lui. Ça fait aussi partie, on peut dire, de la muraille que Dieu désire voir, construire, bâtir, rebâtir peut-être.
Très sensible à la moquerie ou au mépris. Et Satan utilise cela pour nous déstabiliser ou nous décourager, pour que nous arrêtions de construire. C'est ce qui est arrivé là. On le voit déjà à la fin du verset 2, il y a encore ces deux-là qui sont là, Sambala et Geshem, l'arabe, et puis plus loin il y a Tobija, et il est dit au verset 19, « Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Qu'est-ce que vous faites là ?» Il parle de révolte même. Mais cela n'a pas empêché Néhémie et tous ceux qui ont bâti, qui ont construits, qui ont réparé les brèches, de poursuivre le travail. Et on le voit là, début du chapitre 4, moqueries, cinq moqueries différentes, cinq questions qui peuvent toucher, n'est-ce pas, les cœurs, pour faire abandonner le travail. Et alors, il y a cette prière de Néhémie, écoute notre Dieu, car nous sommes méprisés. On répand notre cœur devant Dieu. Voilà, tu vois, on se moque de nous, on nous méprise. Mais le travail, il est poursuivi. Verset 6, il rebâtit la muraille et toute la muraille fut reliée. Voilà le travail qui s'accomplit. Et ces ennemis-là qui s'étaient moqués, il peut dire au chapitre 6 de Néhémie, à la fin du verset 16, elles reconnurent que cette œuvre avait été faite de par notre Dieu. Oui, c'était l'œuvre de Dieu qui s'accomplissait. Et même les ennemis sont obligés de reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu. Alors ayons à cœur d'agir pour le bien, l'œuvre de Dieu. Néhémie, on l'a vu au chapitre 2, n'est-ce pas, il est dit, il était venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Il y en a un autre qui a recherché le bien. Il y a eu, on le voit, le Jehoiada. Il avait fait du bien pour le peuple de Dieu. Quel est-ce que nous avons à cœur le bien du peuple de Dieu? Que nous ayons vraiment à cœur cela. Et alors, on voit, il est dit, à la fin du verset 6, le peuple avait le cœur au travail. En fait, tout est question de notre cœur, en fait. Et j'aimerais citer, terminer ce verset, cette interrogation de Jérémie 30 au verset 21 à la fin. Jérémie 30, verset 21 au milieu. Car qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi? Alors, le Seigneur peut nous dire aujourd'hui à chacun, tous nos chers jeunes qui sont ici, qui c'est celui qui engage son cœur? Enfin, tout se passe dans le cœur. Si le cœur est engagé pour le Seigneur, eh bien, il y aura de la bénédiction. Si nous aimons le peuple de Dieu et sa maison, comme Jehoiada l'avait fait, comme Néhémie le fait, il y aura de la bénédiction. Et on verra que c'est l'œuvre de Dieu. 52 jours, il a été dit tout à l'heure par Michel, 52 jours. Et le travail, dit-il, réparation des brèches. Il est dit ailleurs en Ésaïe, je crois, on t'appellera réparateur de brèches. Est-ce que nous avons à cœur de réparer les brèches ou d'accentuer les brèches que nous ayons à cœur de réparer?
On a parlé tout à l'heure de ces ennemis. Qui sont-ils, ces ennemis? On a lu ce verset du chapitre 2, au verset 19. Sambalat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe. Donc quand on... Le Horonite, bien sûr, c'est celui qui vient de d'Oron, comme cela a été dit. Et c'est certainement... Ce sont des gens qui habitent dans le pays. C'est vraisemblablement des religieux. Alors, et qui s'opposent, bien sûr. C'est à l'intérieur. C'est des ennemis de l'intérieur qui se disent serviteurs de Dieu, en quelque sorte. Les Samaritains, comme on en a parlé, eh bien sont, on voit qu'ils servaient Dieu, comme cela est un mélange entre les peuples qui avaient été ramenés par Shalmaneser et les dieux qui et ces dieux-là, bien sûr, c'est l'Éternel lui-même, mais on voit que ça avait été organisé comme un mélange. Le serviteur ammonite, on sait que Ammon, c'est un descendant de Lot, et l'arabe, eh bien, ça nous parle aussi d'Ismaël. Donc on voit que ce sont des gens qui ont des prétentions. Pourquoi ils s'énervent? Bien sûr, il n'y a aucune raison, peut-être certainement, d'avoir peur d'eux quand on considère. Mais ce qu'ils veulent, on le voit à la fin du chapitre 13 hein, de Néhémie. Leur but, c'était les jeunes. 13, verset 23. En ces jours-là, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes étrangères, des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, et leurs fils parlaient à moitié l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Donc qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire? Eh bien, c'est à s'emparer des enfants. Ce n'est pas la génération des anciens que l'ennemi cherche. L'ennemi cherche ses enfants. Et on voit comment il avait agi, hein, puisque Tobija, le serviteur ammonite, eh bien, c'était le beau-père, enfin, non, pardon, le beau-père du fils du grand sacrificateur. Donc c'était le... Ils étaient de famille alliée. Et donc, voilà ce que l'ennemi cherche. Et ces ennemis-là, on sait qu'il y en a encore dans les milieux chrétiens d'aujourd'hui. Dans les Actes, au chapitre 20, on voit l'apôtre Paul qui prévient les anciens d'Éphèse. Acte 20, au verset 27, on peut commencer, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse. Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des choses perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Et donc voilà le but du diable, le but de ses serviteurs, eh bien, c'est d'attirer à lui-même. Et c'est ce que voulaient ces 3 ennemis qui s'acharnent contre l'œuvre de Néhémie, qui par la muraille, au contraire, voulait protéger les siens. Et on voit que c'est une affaire de protéger le troupeau. Hein, c'est, donc, d'un côté, il y a les jeunes que ces hommes veulent s'accaparer, et de l'autre, eh bien, il y a les anciens qui doivent protéger le troupeau. Dans l'épître de Pierre, on en a parlé, il y a aussi ces anciens qui doivent protéger le troupeau, à l'image de Néhémie. Et qui doivent suivre l'exemple de leur souverain pasteur. Pardon. Oui, c'est pour ça, pratique. Donc c'est dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Paissez, c'est adressé aux anciens, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Et alors, c'est pour les jeunes, eh bien on peut lire dans le Cantique des Cantiques, comment trouver le chemin, justement, par rapport à ses ennemis et par rapport à ses pasteurs, comment les choisir. Au chapitre 1er et au verset 7, il nous est dit, c'est l'épouse qui parle, « Dis-moi, toi qu'aimes mon âme, elle s'adresse au Seigneur, c'est une prière, où tu paies ton troupeau, où tu le fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons ?» Et donc là, on voit, comment trouver le Seigneur, comment pouvoir le voir quelque part à face découverte, puisque là, elle est obligée de rester voilée auprès des troupeaux des compagnons. On a vu que c'est méchant, et bien là, les compagnons, je ne dis pas que c'est exactement des méchants, mais c'est quand même qui attirent ce troupeau à eux-mêmes, puisque on voit que, si tu ne le sais pas, verset 8, « Ô la plus belle parmi les femmes », c'est la réponse du Seigneur, « Sors sur les traces du troupeau et paie tes chevreaux parmi les habitations des bergers. » Voilà ce que nous sommes appelés. Donc ces hommes qui attirent à eux-mêmes, ces loups redoutables, comme il est dit par l'apôtre Paul, eh bien, ce sont ceux-là qui cherchent à nous attirer et qui utilise tous les moyens pour nous éloigner justement du Seigneur. Et la muraille, elle sert au contraire à nous maintenir autour de lui. Et après, eh bien, au verset 9 et 10 du Cantique des Cantiques, au premier chapitre, eh bien, c'est le Seigneur qui lui parle, qui la compare à cette jument au char du Pharaon. Voilà tous les ornements du Seigneur. Tous, on parlait des bijoux tout à l'heure, dont l'apôtre Pierre nous parlait pour les femmes. Eh bien, là, pour l'Assemblée, eh bien, ces bijoux, ce sont les bijoux que le Seigneur apprécie. Alors, c'est sûr qu'ils nous sont parlés avec, ils nous sont décrits avec des mots qui décrivent des bijoux, mais ce sont des ornements spirituels, des chaînes d'or et des paillettes d'argent, le rachat, la ressemblance du Seigneur, et je cherchais à l'imiter. Et voilà ce que nous avons, voilà l'utilité de la muraille, et c'est justement de nous séparer de ces ennemis qui cherchent à entrer, qui campent aux portes, comme on peut le voir dans Néhémie 13. On ne va pas lire tous les versets, mais voilà ce que j'avais à dire. Merci.
On pourrait se demander comment est-ce que c'est aujourd'hui, comment nous pouvons faire une application de construire, de réparer la muraille. Qu'est-ce que c'est réparer la muraille aujourd'hui pour nous, tout pratiquement? Nous savons à quoi sert la muraille. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Et je prends l'exemple de quelque chose que nous avons lu dans le troisième chapitre, qu'il y avait là un juif qui avait à cœur sa maison. Il avait donc réparé la muraille vis-à-vis de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il y a un danger pour ma famille, pour ma maison. Je prends cela seulement comme exemple. Nous comprenons bien que nous pouvons étendre cela aussi, non pas seulement nos maisons, mais aussi l'assemblée locale. Oui, aussi peut-être des assemblées que nous connaissons, où nous avons peut-être même une certaine responsabilité. Prenons la famille. Que fait le père? Comment est-ce qu'il peut réparer une brèche dans la muraille? L'enfant vient, un fils vient de l'école et il a quelque chose à dire, à raconter à ses parents. Et alors, des choses qu'il a apprises, qu'il a entendues dans l'école. Que fait le père dans sa responsabilité? Il va certainement prendre ce que le fils a dit pour évaluer, on peut dire évaluer, je pense, évaluer ce qui était dit. Et pour dire, écoute, il y a la parole de Dieu qui dit ça et ça, pour corriger ce qui est en train d'entrer dans le cœur du Fils. Alors ça, c'est absolument nécessaire que nous faisions ça, non seulement dans nos maisons, pour le Père, un travail, une responsabilité qu'il a, mais c'est aussi quelque chose que nous devons faire aussi dans les assemblées locales. Il y a une idée qui vient. Eh bien, est-ce que nous ne devons pas aussi avoir des rencontres avec tel et tel frère? Ce sont aussi des croyants, ce sont aussi des personnes qui parlent du Seigneur, un Seigneur, mais ils m'ont dit, ce n'est pas si nécessaire. Qu'est-ce que c'est alors? Chaque jour, chaque dimanche, vous êtes ensemble, vous avez la fraction du pain. Et vous le faites encore seulement pour ceux-là, non pas pour d'autres encore. Eh bien, est-ce que nous avons une réponse? Est-ce que nous pouvons vraiment, par la parole, répondre à ces questions qui se posent, que nos jeunes posent? Ils disent, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller là et là? Pourquoi pas? Parce que, eh bien, il faut que nous sachions vraiment répondre pourquoi ce n'est pas juste. Et ça rejoint d'ailleurs ce que notre frère vient justement dire. Ces versets que nous avons lus dans Acte 20, où l'apôtre Paul les a averti concernant ces personnes qui pouvaient venir, qui pouvaient faire entrer des pensées, des idées qui étaient contraires à la parole de Dieu. Voilà quelque chose qui est très nécessaire. C'est là que nous tous sommes appelés, peut-être surtout aussi les un peu plus âgés, que de vraiment comprendre les difficultés que quelques jeunes ont. Parce que c'est un très bon ami, mais qui marche comme ça, et pourquoi pas? Pourquoi pas aller avec lui? Eh bien, il faut savoir pourquoi pas. Il faut aussi l'expliquer pourquoi pas. Parce que la parole nous invite à toute autre chose, nous invite à avoir vraiment cette séparation du mal. Alors l'autre là, ton ami, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça, il dit, c'est pas grave, ça on peut faire. Est-ce qu'on ne peut pas faire, moi aussi? Puisque lui est un croyant, il parle du Seigneur. Eh bien non. J'espère qu'on me comprend dans ces questions. Et nous avons une responsabilité. Moi, comme père, grand-père d'une famille, j'ai une responsabilité tout à fait claire d'expliquer et de dire aussi pourquoi. Parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous aimons la parole, nous voulons vraiment suivre la parole. Donc reconstruire, réparer, c'est ouvrir la parole pour savoir ce que Dieu aime que nous sachions et que nous pratiquions aussi dans notre vie de famille, dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Assemblée.
Voyons simplement rappeler un verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, passage que nous connaissons bien de la femme samaritaine. Elle dit au Seigneur Jésus, au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Voilà toute la question. Nos pères, c'était qui? C'est les Samaritains. C'est le monde religieux qui dit qu'on peut adorer sur les montagnes. Si on regarde de près, le monde religieux est entièrement représenté là. Peut-être Sanballat nous parle du chef, de celui qui dirigeait ces armées de la Samarie. Mais certains commentateurs y ont vu en fait un Moabite, quelqu'un qui venait de la ville d'Horonaïm, dont il est parlé en Ésaïe 15 et en Jérémie 48. Mais ce n'est pas la question. Mais nous voyons probablement les Moabites, nous voyons les Ammonites, et nous voyons plus loin au passage que nous avons lu au verset 7, des Arabes descendants de Ismaël. Et puis nous voyons aussi les Asdodiens, qui est une ville de la Philistie, les Philistins. Toutes des nations, on peut dire, qui n'étaient pas irreligieuses, qui pratiquaient un culte, soit un culte idolâtre, soit un culte mélangé, en tout cas sur les montagnes. Et nous savons ce que Israël et Juda ont été, comment ils ont été séduits pour aller sur les hauts lieux. Mais elle dit, la femme samaritaine, vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Bien sûr, le Seigneur va aller encore beaucoup plus loin, nous le savons bien, mais juste pour montrer qu'il y avait une différence fondamentale entre tout ce que le monde religieux peut inventer autour de l'adoration et ce que Dieu avait donné à son peuple autrefois, le lieu où il a fait demeurer son nom. Et c'est la grande question pour nous aujourd'hui. Si nous parlons de l'adoration, d'aller ici ou là, la question c'est Est-ce le lieu où l'autorité du Seigneur, où le nom du Seigneur est reconnu et le lieu où ses droits sont maintenus? Voilà, on peut dire, ce qui faisait la différence. Alors quand les ennemis disent « offriront-ils des sacrifices ?» probablement eux aussi, ils offraient des sacrifices. Mais ce qui est intolérable à l'ennemi, c'est que le sacrifice soit selon la pensée de Dieu. Et elle est certainement que nous sommes dans la faiblesse, certainement que nous offrons, on peut dire, dans un cercle bien réduit, bien petit nombre, mais il est intolérable pour l'ennemi que ce soit selon la pensée de Dieu, parce que finalement, l'ennemi n'a pas seulement en vue nous-mêmes, mais il est contre Dieu, contre la pensée de Dieu, contre ce que Dieu a établi. Et nous ne devons pas perdre de vue cela, c'est que si Dieu va offrir sa protection à ceux qui ont entrepris ce travail, c'est parce que il s'agit de ses intérêts à lui et qui ne permettra pas que l'ennemi triomphe. C'est finalement ce qui est selon la pensée de Dieu qui doit s'accomplir. Le Seigneur nous donne de ne pas être effrayés par l'ennemi, qui nous donne de réaliser que ce sont ses intérêts, c'est sa gloire qui est en jeu. Et que ce n'est pas seulement la question de savoir si nous pouvons aller à droite ou à gauche, faire ce qui plaît à nos yeux, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui plaît au cœur du Seigneur.
Petite miette seulement, par rapport à compléter ce qu'a dit Rainer et Philippe. Il y a bien longtemps, des siècles avant cette scène, un croyant n'avait pas bâti de muraille autour de son cœur, autour de sa famille. Il était allé s'installer dans le monde. On l'a rappelé, Lot. Il a laissé sa famille à l'influence du monde, des pensées du monde, de la corruption du monde. Qu'en est-il issu? Un des plus grands ennemis du peuple de Dieu. Tobija l'ammonite. Bien-aimés, si nous manquons à la construction de ces murailles autour de nos familles et de nos cœurs, craignons que dans notre descendance, il y ait de grands ennemis du peuple de Dieu.
Comme l'a dit tout à l'heure Rainer, c'est bâtir devant sa maison. Et ce que vient de dire Jean-Michel, aussi, il y en a un qui n'a pas bâti devant sa maison, et on a dans la parole, c'est Eliashib. Et c'était d'autant plus grave qu'il était grand sacrificateur. Il avait une responsabilité décuplée, on peut dire, par sa position de grand sacrificateur, parce que finalement, Philippe l'a un peu dit, ils avaient marié Eliashib, son fils, a marié la fille de Sanballat. Son fils a marié la fille de Sanballat. Vous trouvez ça dans Némie 13, n'est-ce pas? Et l'un des fils de Joïada, fils d'Eliashib, et c'est son petit-fils, pardon, le grand sacrificateur était gendre de Sanballat, c'était son petit-fils. Et bien sûr, on pouvait dire, mais oui, mais Sanballat,
il y a une activité religieuse, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas des gens, c'est pas des païens, c'est... Et aujourd'hui, lorsque le cœur d'un jeune est pris, on peut dire que s'il n'a pas gardé son cœur, c'est déjà trop tard. Peut-être très, très séduisante, cette petite de Sambalat. Très séduisante. Peut-être qu'elle lui a dit, mais oui, on fera, je te suivrai. Il y a tant d'exemples, n'est-ce pas ? Parce que Satan a toujours beaucoup utilisé ce biais du mariage pour ruiner des vies. La vie de ce jeune petit-fils d'Eliashib, sur le plan spirituel, fini. Il a été chassé de la sacrificature. C'est bien ce qu'il nous est dit dans le chapitre 13. C'est-à-dire sa première vocation de rendre témoignage, d'être un sacrificateur, c'est bien notre vocation, eh bien c'est terminé à cause d'un mariage qui n'était pas selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Eliashib vis-à-vis de son petit-fils ? On ne sait pas. Pourtant, la parole était claire et on l'a d'ailleurs au début du chapitre 13. Qu'est-ce qu'il était dit ? Il est dit au début, l'Ammonite, le Moabite n'entreront jamais dans la congrégation d'Israël. Eliashib était allié de Tobija. Et c'est quelque chose qui ruine aussi aujourd'hui le témoignage. Ces alliances avec les gens du monde. Il y a tellement de cas, on en parlait dans le particulier hier, de gens qui disent « Oui, oui, mais je crois qu'elle est convertie, si, si, je t'assure, elle est bien disposée, elle est... oui. » On a vu des jeunes fiancés qui sont venus, lui paraissait bien disposé jusqu'au jour du mariage, après on ne les a plus vus. Fini. Caractère de sacrificateur fini. Eliashib avait été tellement complaisant qu'on a enlevé ce qu'on mettait pour les offrandes de l'Éternel pour en faire des chambres pour Tobija. On trouve ça dans le chapitre 13. Attention à nos associations. Attention avec les amitiés que nos enfants peuvent contracter dans le monde. Tout un problème. Je sais que c'est difficile. On l'a vécu, les jeunes parents. Ah, mais je suis invité à l'anniversaire d'un tel. Ouais. Ça s'arrête où, ça ? Oh, il est petit. Il est petit. Ça se passe bien. Ils vont boire du coca et puis manger des Smarties. Ouais. Attention au petit commencement. Attention. Satan est plus rusé que nous. Et les petits commencements, vous allez dire quand à votre fils que maintenant c'est plus possible ? L'anniversaire, oui, mais tu me laissais bien aller, maintenant tu ne me laisses plus aller. Hein, ouais. Je ne comprends pas. Il faut qu'on tienne beaucoup sur nos genoux pour vous qui élevez des enfants aujourd'hui. Le monde voudrait vos enfants pour lui, mais le Seigneur les voudrait pour lui. Il faut que nous prions pour vous. On pense simplement, là c'est l'influence de Tobija, on est allié de Tobija. On tremble pour vous, parents, par rapport à la révolution Internet numérique. Même ce que c'est qu'un portable dans la main de votre enfant. Un frère nous disait au plateau, il y a quelques années, le portable que votre enfant a dans sa chambre, c'est de la dynamite. Faire tout sauter. Que le Seigneur vous aide. Vous en avez vraiment, vraiment besoin. Mais en même temps, et on l'a dit, il y a toujours des ressources. Dimanche dernier à Mulhouse, on a dit ça. Si les fondements sont détruits, que fera le juste ? Oui, les choses sont détruites, les fondements aujourd'hui. Mais il y a un chemin pour la foi. Le Seigneur n'est pas dépassé par la révolution numérique, le Seigneur n'est pas dépassé par la toxicité du monde. Non, le Seigneur est là avec des ressources. À celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez, vous placez irréprochable, avec abondance de joie, devant lui avec abondance de joie. À lui soit la gloire. C'est la fin de l'Épître à Jude.
Ce matin, on a beaucoup parlé de batailles, de combats, de ressources aussi qu'on avait avec nous. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion qui apparaisse, il y a un combat qui n'est plus à perdre. On a parlé de garder vos cœurs, mais donnez votre cœur au Seigneur. Il est mort pour vous à la croix, et cette bataille-là n'est plus à perdre. On ne peut plus vous prendre votre cœur. Il y a beaucoup de choses, de bénédictions que vous pouvez peut-être négliger, mais ayez cette certitude que cette bataille n'est plus à perdre. Gardez toujours à l'esprit, voilà ce qu'on peut lire au verset 14 du chapitre qu'on a lu. « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible. » On a aussi commencé ce matin par parler de la chute au jardin, quand l'ennemi a fait tomber les premiers hommes. On a dit aussi ce matin que Dieu était grand, était fort, avait toujours des ressources, mais avant la chute, l'agneau de Dieu était devant ses yeux, il avait déjà la solution, il était déjà plus fort que l'ennemi, déjà à ce moment-là.
Cantique 146.